بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر الحديث مشافر عن الإسلام nous avions commencé à voir ce hadith de Imam Muslim qui est connu dans le monde musulman comme étant le hadith Jibril, le hadith de base concernant les aqaïd, les croyances du musulman. Hadith d'une grande simplicité que très souvent les enfants également ils apprennent au madaris, dans les madrasas, dans les makatib. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam raconte qu'il reçut une fois la visite d'un homme, un étranger, un homme qui avait des vêtements d'une blancheur éclatante, un homme d'une grande beauté avec les cheveux très noir et la barbe très noire, un étranger, mais paradoxalement, on ne voyait aucune trace de voyage sur cette personne et personne ne le connaissait. Il prit place dans l'assemblée des Sahaba, Ridwanullahi alayhi majma'in, qui était assemblée autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le sommes aujourd'hui dans une assemblée pour apprendre la religion. Et cette personne s'est faufilée et elle s'est mise assise en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux règles de bienséance, aux bonnes habitudes, aux bonnes manières, on va dire, qui est que quand on arrive en retard, ben, on s'assoit où on est. Et là, les ulama disent également, c'est une règle à retenir, quand vous allez dans une assemblée, vous vous asseyez là où vous trouvez de la place. Il ne faut pas que parfois, on voit même Salatul Jum'a, parfois il y a des gens qui arrivent en retard et ils se font comme une règle qu'ils doivent être devant. Et ils vont sauter, ils vont se faufiler, ils vont déranger les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cette action. On revient au hadith. Et donc il s'est faufilé, il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a mis ses genoux dans la position de la salat comme notre frère est assis, ses genoux proches des genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé des questions au prophète d'Allah. Et parmi les questions, c'est ce qu'on avait vu avant le mois de Ramadan, les questions concernant l'islam. Et ensuite les questions concernant l'iman, et ensuite concernant l'ihsan. Et après il y avait d'autres points. Mais ce qui nous intéresse, ce qu'on avait commencé à développer, c'est l'islam, l'iman et l'ihsan. Ce sont là les droits, les trois degrés de foi. L'islam, ça concerne les a'mal bil jawarih, les actions extérieures, les arkan l'islam. L'iman, c'est tout ce qui est intérieur, les qualités de foi qu'on doit développer. Et les savants disent que plus un musulman va développer les qualités de foi intérieures, plus les actions extérieures auront de la valeur, auront de l'importance et seront accomplies avec khushu', avec dévotion, avec concentration, et on s'appliquera et on comprendra la réalité des actions. Parce que comme on avait expliqué au mois de Shaban, il me semble, tout commence et tout démarre du cœur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait hadith que « Innamal a'malu bin » بالنيات. Les actions ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire que on a les actions, c'est ce qu'on voit. Lui, il donne. Lui, il lit. Lui, il fait le dhikrullah. Lui, il fait ci, il fait ça. Et puis, il y a innama al-a'mal bin-niyyah, le niyyah. Et le niyyah, c'est où ça? Mahalluhu al-qalb. L'intention, c'est dans le cœur. Les a'mal, c'est visible. Mais le début, la naissance des actions, c'est dans le cœur. Et la validité des actions, quelle que soit la quantité, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit l'importance ou l'urgence de ces actions, la validité de ces actions va démarrer de ce qui se passe intérieurement, c'est-à-dire dans mon cœur, au plus profond de moi-même, que personne n'est capable de déceler ou de détecter ou de lire. Ce qui veut dire qu'une personne qui va donner une date en aumône, fi sabilillah, avec une sincérité, mashallah, optimale, cette action a plus de valeur que celui qui donne 10 000 euros, riya wa suma'a, pour faire voir aux gens, pour qu'on dise que, mashallah, lui c'est un muhsin, lui c'est un bienfaiteur, lui c'est un homme généreux. Non, ça ne servira strictement rien. Ce n'est pas l'ampleur, la beauté, l'importance, le tape à l'œil, comme on dit, tout démarre du cœur et non pas le résultat des actions. Donc les savants disent que la relation entre islam et iman, c'est que iman c'est tout ce qui concerne l'intérieur de le cœur, et plus la foi est présente, plus la foi est complète, mieux on accomplira la salat, mieux on accomplira le saum, le jeûne, mieux on s'acquittera de la zakat, et mieux on fera le pèlerinage, on fera le hajj. Tandis que si à la base, le iman, il est à 2% au lieu d'être à 98 ou 99%, il y aura peut-être des actions, mais ils ne seront pas éclairés. La batterie est tellement faible, comment voulez-vous utiliser des applications? Excusez-moi, l'exemple est bête. Ma batterie de GSM est à 2%. Comment vous voulez utiliser WhatsApp, Viber, MSN, vous voulez utiliser YouTube, etc., etc. Pas possible. Avec 2%, on veut dire que batterie trop faible, impossible. Ou alors, vous allez voir, mauvaise qualité, ça va s'éteindre, etc., etc. Excusez-moi, l'exemple est un petit peu ras de terre, mais c'est pour qu'on comprenne la relation qu'il y a entre iman et islam et l'importance donc de développer les croyances dans le cœur du musulman. Et quand on parle des croyances, ce sont les croyances de base qu'on a citées. Croire en Allah, et ça on avait expliqué durant le mois de Rajab et Sha'ban à peu près, on s'était un petit peu, mashallah, attardé sur quelques sifat, quelques qualités d'Allah Azza wa Jal. Et on avait dit que, vous savez mes chers frères, très souvent on essaie de faire plein de choses dans la religion. On se dit que pour devenir un bon croyant, un bon musulman, il faut faire beaucoup de choses, il faut faire telle chose, peut-être il faut absolument que mes enfants deviennent hafidh al-Qur'an, il faut que moi-même je fais ça. Il faut, parfois on se fixe des objectifs, mashallah, qui sont louables, mais difficilement accessibles, et à un moment donné on se dit que tu comptes devenir un bon croyant, c'est trop dur pour moi, c'est pas facile. L'islam n'est pas simple à pratiquer. Alors que, subhanallah, on a juste à revoir les hadiths de base, comme ce hadith de Jibril. Et si un musulman il l'étudie correctement, et il en tire les leçons, et il met en pratique ce qu'il faut mettre en pratique, et il prend les ibar, comme on a dit, les leçons qu'il y a à travers chaque phrase prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, acquiescée par l'ange Jibril alayhi salam, ben, je vous donne la garantie, mes chers frères, on devient les meilleurs des croyants. On devient les meilleurs des croyants, parce qu'il suffit de développer les qualités de iman, les qualités de les arcanes de l'islam, pour atteindre le degré de ihsan, le plus haut degré de foi, et après, qu'est-ce qu'on veut encore? Quand on a atteint le plus haut degré de foi, on est les meilleurs des gens, on est les personnes les plus aimées, les plus acceptées par Allah Azza wa Jal. Et on avait rappeler c'est quoi l'iman billah, on avait rappelé c'est quoi l'unicité d'Allah dans la création, l'unicité d'Allah dans le culte de l'ibada, sachant que c'est Allah qui a tout créé, c'est lui seul donc qui mérite d'être adoré. D'où le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, aucun être ne mérite d'être adoré, digne d'adoration à part Allah Azza wa Jal. Et on a vu que Allah qui est créateur de toutes choses, qui est le seul qui mérite d'être adoré, donc à lui revient sifatul kamal, les attributs les plus parfaits, et al-asma'ul husna wa sifatul ula, les noms sublimes, et donc les sifat, les qualités les plus sublimes, les plus complètes, comme cela sied à Allah Azza wa Jal. Et parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal, il y en a Allahu Akbar, chaque nom yadullu ala sifa, chaque nom d'Allah ramène vers une qualité, vers une sifa d'Allah Azza wa Jal. Et nous, on avait rappelé entre autres, et ce qui est nécessaire à la base même du iman, c'est de prendre conscience tout d'abord qu'Allah Azza wa Jal, il est Sami' et Basir. Allah voit tout et Allah entend tout. On ne va pas revenir sur ce qu'on avait expliqué avec les hadiths qui le prouvent, mais on va voir juste la conclusion. Quelqu'un qui est conscient qu'Allah voit tout et qu'Allah entend tout, mais théoriquement, quelle est la pratique qui doit découdre de cette croyance? C'est que dans toutes les situations de ma vie, je prends conscience qu'Allah m'observe. Allah m'observe et donc je ne vais jamais me mettre dans une situation où je vais désobéir à Allah, sachant qu'Allah est en train de me regarder. Dans toutes les situations de ma vie, je sais qu'Allah m'écoute. Donc quand je sais qu'Allah m'écoute, je ne vais pas prononcer des paroles déplaisantes de riba, de bohtan, de namima, de qila wa qal, hein, de médisance, de calomnie, de colportage, de mauvaises paroles. Je ne vais pas dire tout ça, ni de gros mots, qu'Allah nous pardonne, des grossièretés ou des paroles qui vexent, qui cassent le cœur de notre prochain et ainsi de suite, parce que je sais qu'Allah est Sami', Allah entend, entend tout. Et combien de fois on lit et on entend ce verset du Coran, Inna Allah Sami'un Basir, combien de fois? Tout le monde le connaît, même celui qui n'est pas Hafid al-Quran, il connaît ses fins de verset. Mais ça, ce sont des attributs d'Allah, c'est les premiers attributs qu'on doit connaître et surtout prendre conscience. Parce que se dire qu'Allah entend tout, voit tout, c'est quelque chose. Maintenant, quelle pratique je vais mettre, je vais faire par rapport à cette croyance? C'est ça, le natija. Le résultat, c'est pas juste se dire qu'Allah il est comme ci, Allah il est comme ça. C'est que, en conséquence, sachant qu'Allah voit tout, comment je dois me comporter? Sachant qu'Allah entend tout, comment je dois me comporter? C'est ça. C'est comme ça qu'on devient bon croyant. C'est comme ça que notre épouse deviendra une bonne épouse. C'est pour ça que nous, c'est comme ça que nos enfants deviendront de bons enfants. Si on les forme, on les éduque avec ses aqaïd, avec ses croyances, avec ses convictions. Que mon enfant, plutôt que je l'éduque avec le bâton, ou avec les gros mots, les grossièretés, ou avec les cris, ce qu'il sait que si je fais, l'enfant dit s'il fait une bêtise, papa va frapper, va tirer un coup de savate, ou alors va crier, va punir, c'est une méthode, d'accord, une manière. Ok, bon, chacun sa manière, mais au-delà de ça, si je puis faire intégrer à mon fils ou à ma fille, que mon enfant, Allah te voit, n'oublie jamais que quelle que soit l'action que tu accomplis, Allah t'observe. Quelles que soient les paroles que tu vas dire, sache qu'Allah t'écoute et Allah t'entend. Si l'enfant grandit avec ses convictions, ben Inch'Allah, il deviendra un bon croyant. Et Inch'Allah, quand il sera grand, il aura 17-18 ans, il va garder ses acquis. Ce qui fait qu'il n'ira pas faire les mêmes bêtises que ses amis. Il ne va pas prendre sa première bière, il ne va pas fumer sa première cigarette, ni son premier joint, il ne va pas aller en boîte de nuit quand il aura 18 ans, il ne va pas flirter avec des filles quand il sera en 5e, en 4e, parce qu'il aura la conviction qu'Allah me voit et qu'Allah m'entend. Et tout ça, ça nous ramène vers « Antu'mina billah », croire en Allah. Mais si on demande à un musulman, ça veut dire quoi croire en Allah? Malheureusement, on risque d'avoir une réponse très limitée. Croire en Allah, c'est que Allah est le Dieu. C'est tout. Allah m'a créé. Et j'adore Allah. Quand je fais salat, je fais pour Allah. Il dit, mais parle-moi de ton Dieu, parle-moi d'Allah. Malheureusement, on se limite à ça. Beaucoup de gens ne connaissent pas réellement qui est Allah. C'est ça, la source de nos manquements de la religion. Si quelqu'un, si le croyant il a conviction qu'Allah entend tout, Allah voit tout, il n'agirait pas, on n'agirait pas comme on le fait de nos jours. Parmi les sifats d'Allah Azza wa Jal, qu'on avait vu également, quand on avait développé « Antu'mina billah », c'est être conscient qu'Allah Azza wa Jal, il est « Alim » et Allah est « Qadir » entre autres. Allah il connaît tout et Allah est capable de tout. Et Allah il sait ce qu'il y a, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est produit dans le passé, ce qui se produit au présent. Allah connaît le futur, c'est le seul qui connaît l'avenir, et Allah connaît même les différents cas de figure du futur. On avait parlé du futur conditionnel. Ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ce qui n'existe pas, si Allah l'avait décidé, comment cela aurait été. Tous les cas de figure, parce que ça c'est le ilm d'Allah, ça c'est la connaissance d'Allah. Et de même, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah Rabbul Izzah. Si quelqu'un dit que oui, lui c'est un grand fundi, pas où, hein, mais lui c'est un grand cheikh et tout, il est un grand fundi, lui quand il me regarde, il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Abadan, abadan. Certains savants disent même que celui qui a cette conviction, on se rapproche du shirk. Parce que le seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur des sahabas. Quand il y avait les hypocrites qui avaient fait du tort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accusé Aïcha radiallahu anha de tous les maux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait des hypocrites dans la communauté qui faisaient circuler ces bruits, ces rumeurs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incapable de dire qui étaient ces gens. Le prophète ne savait pas ce qu'il y avait dans les cœurs. D'accord ? Donc, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, quand j'ai une mauvaise intention, Allah il connaît déjà quelle est ma mauvaise intention. Quand j'ai une bonne intention, Allah il connaît ma bonne intention. Et qu'est-ce qu'on doit déduire à partir de cela ? C'est quelqu'un qui connaît la règle. Man hamma bi hasanatin. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, et s'il l'accomplit, Allah lui accorde au minimum 10 fois la bonne action, la récompense. Jusqu'à, subhanallah, sans limite, parce qu'Allah il rétribue comme lui seul sait le faire, parce que Allah est karim. Ça c'est un autre attribut d'Allah. Allah est généreux. Allah il accorde, il donne sans compter. Et donc, celui qui maintenant a l'intention de faire un péché, mais il ne l'accomplit pas, Allah ne le punit pas. Et au contraire, celui qui veut faire un péché, et qui ensuite, il pense à Allah, il ne le fait pas, Allah lui accorde une récompense plutôt que le péché. Parce qu'il a voulu faire un péché, et comme il a eu la pensée d'Allah dans son cœur, il s'est arrêté, donc Allah est satisfait de son choix. Donc ça, ça nous ramène vers l'importance d'avoir toujours de bonnes intentions dans les cœurs. Vous voyez quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est démuni, vous le voyez, voilà, il demande un peu, il demande de l'aide. Il faut que vous dites que si j'avais, je lui aurais donné. Si j'avais des moyens, j'aurais donné à la masjid qui a besoin de tant de temps, qui a besoin d'être reconstruit. Si j'avais les moyens, j'aurais donné pour la madrasa qui a besoin, qui doit, pour que nos enfants... Bref, que le cœur soit toujours animé des plus belles des intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une fois qu'il était dans une campagne avec les sahabas. Il y a un hadith, ajib ça. Il a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas parmi nous, mais à chaque fois qu'on passe des étapes difficiles, où on vit des difficultés, ils obtiennent les mêmes récompenses que nous. Ça m'a dit au prophète d'Allah, comment est-ce possible? Le prophète m'a dit qu'il y avait telle personne qui voulait se joindre à notre campagne, mais à cause de tel obstacle, ils n'ont pas pu se joindre à nous, mais ils avaient l'intention ferme de venir, mais il y a eu un empêchement. Et comme leur cœur était sincère, ils voulaient le faire, Allah Azza wa Jalla leur accorde l'intégralité des récompenses de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Ça c'est Al-Karam. Ça c'est la générosité d'Allah. Donc si je sais qu'Allah, je suis conscient qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, je dois faire en sorte que, mon cœur soit animé des plus belles et des plus bonnes intentions. Et enlever de ce cœur tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, les mauvaises pensées envers les gens, hein, la méfiance, la jalousie, la haine, l'ostentation, tout ça il faut enlever du cœur parce qu'Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il y a des fois où on fait un péché avec le cœur, mais personne n'est capable de le dire. Mais c'est inscrit comme un péché, la jalousie, qu'Allah nous pardonne. Comme on a dit, l'ostentation, la fierté, l'orgueil. Je regarde cette personne, je dis, ça. Je dis rien, mais dans mon cœur, je dis que ça y est, ça ne vaut rien, ça. Lui, il a raté sa vie. Hein, il a quitté l'école en 3e. Regarde, là, il traîne à droite, à gauche. Il dit, moi, je suis un homme. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai fait des études. Je me sens fier. Ça, c'est grave. Ça, c'est une gravité qu'on n'imagine pas la conséquence. Takabbur, al-fakhr, l'orgueil, la fierté, la vanité. Ça, c'est des choses que peut-être on ne le dit pas, mais quand on le ressent, Allah est très mécontent. Et c'est considéré comme un péché. Donc, je dois faire en sorte que même mon cœur, je le purifie. J'enlève toutes les saletés qu'il y a dans le cœur et je remplace que par de bonnes choses, de bonnes intentions. Et il y a une règle de base, avoir toujours bonne pensée, husnudhan billah bien sûr, toujours une bonne pensée de notre Allah, notre Raziq, de notre Seigneur, mais également quand on voit quelqu'un dans une situation, quelle que soit la situation, on doit toujours essayer de trouver une excuse pour notre prochain. Jamais avoir de mauvaises pensées sur notre prochain. Ça, c'est tout un travail ça, c'est un chantier. Ça, c'est un chantier pour purifier le cœur, pour qu'il n'y a pas de mauvaises choses, de mauvaises pensées qui animent les cœurs. Et donc, on prendra conscience de l'importance de ce travail à partir du moment où je vais intégrer le sens du sifa alim, qu'Allah connaît tout. Également, on avait rappelé que Allah est Qadir, Inna Allah ala kulli shay'in Qadir. Tout le monde connaît ce morceau de verset qu'on retrouve, subhanallah, plus d'une centaine de fois dans le Coran. Allah est capable de tout. Mais être conscient de ça aussi. Vous êtes dans une difficulté, dans une situation de précarité, tant sur le plan financier ou une difficulté par rapport à la famille, quelles que soient les complications qu'on a, les épreuves qu'on a, je dois être conscient qu'Allah est capable de tout. Que innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Qu'Allah prend une décision, Allah ordonne et la chose s'exécute immédiatement. Donc, comment mettre en pratique, comment tirer les leçons de ce sifa, cette qualité d'Allah, c'est en étant conscient qu'Allah est capable de tout. Donc moi je vais lever les mains et demander à Allah. Je vais demander à Al-Qadir, celui qui est capable de tout, de me venir en aide, de dissiper mes difficultés, les sources de tristesse, d'enlever la maladie qui me ronge, d'enlever les problèmes qui m'accablent et ainsi de suite. Imaginez un croyant qui a intégré Sami', Basir, Qadir, Alim, Subhanallah, quel degré de foi il a atteint et comment il a déjà une bonne pensée d'Allah Azza wa Jal et comment il trouve une stabilité dans sa vie. Comment il trouve une stabilité dans sa vie. Et parmi les qualités qu'on avait vues également, on va s'arrêter là, Inch'Allah, qu'on avait vu pas mal de sifat d'Allah Azza wa Jal, autant Allah a de noms, autant Allah Azza wa Jal a de qualités. Et il est de notre devoir d'apprendre, d'étudier les qualités d'Allah. Plus on va connaître les qualités d'Allah, mais plus on va connaître Allah. Et plus on connaît Allah, plus on prend conscience qu'Allah, il est magnifique, azim. Allah, il est, subhanallah, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, quand on va l'adorer, on va faire l'ibadah, on le fera avec encore plus de dévotion. Quand on posera le front sur le sol, ce sera avec une sincérité, un amour inégalable, indescriptible. Quand mon front se posera sur le sol, je vais ressentir un plaisir parce que je me prosterne devant Allah, Rabbul Izza, Rabbul Arsh al-Azim, le maître du jour de l'attribution, le seigneur du trône. Quand arrivera l'heure de Tahajjud, Qiyam al-Layl, je vais m'empresser de faire mes ablutions et de me tenir debout en génuflexion, en prosternation, en position assise devant Allah, avec beaucoup de motivation. Parce que je connais qui je suis en train d'adorer et je sais également que c'est auprès de lui que je retourne. Inna lillahi. Comme on dit à chaque fois, Inna lillahi, ça tout le monde a intégré. Qu'on appartient à Allah, qu'Allah nous a créé, tout ça on connaît. Mais l'autre moitié, c'est comme si on ne veut pas l'entendre. Wa inna ilayhi raji'un. Ça dit oui, oui. On dit ça jusqu'à quelqu'un meurt. Après, c'est comme si on zappe. Qu'un jour on retourne auprès d'Allah. Quand on voit les gens avec des projets de vie, des projets professionnels, d'investissement, Allahu Akbar, une personne qui gagne 2000 euros par mois, il économise, il mange un petit peu, il a besoin d'investir ça, il va acheter un immeuble, il a déjà prévu en 20 ans, il va acheter un appartement pour le premier garçon. C'est-à-dire là, il aura 45 ans. 20 ans plus tard, c'est l'appartement pour le deuxième. Ensuite, tu auras 80 ans. Tu n'as pas mangé un truc qui était bon dans ta vie. Parce que tu te serres la ceinture, tu prévois, tu dis, il faut faire ci, il faut faire ça. En finalité, tout retourne auprès d'Allah et tout devient poussière. Et toi, quand tu meurs, tes enfants, ils vont t'aimer? Oui, ils vont t'accompagner, ils vont t'enterrer et ils vont se battre pour s'accaparer des biens. Et si le bien n'a pas été partagé correctement, ils vont se fâcher. Chacun sera de son coin. Ils ont grandi ensemble, frères et sœurs, bien comme il faut, mais quand papa ou maman meurt, ils ont laissé les biens et qu'il y a un souci de le partage, les enfants ne s'entendent plus. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie? Est-ce que c'était ça l'objectif de ma vie? Est-ce que c'est pour ça qu'Allah m'a créé? Est-ce que c'est pour ça qu'Allah m'a donné la vie, m'a donné les yeux, les oreilles, le qudra, la force, etc., pour acheter des biens, pour donner à mes enfants? C'est quelque chose de loi, mashallah, mais c'est pas tout. On ne doit pas vivre pour ça, on ne doit pas se focaliser. Et en plus, maintenant, il y a des personnes qui, pour arriver à cet objectif, ils vont passer par des chemins interdits. Discuter avec quelqu'un encore il y a quelques jours, pour n'importe quel travaux domestiques, dans la maison, d'aménagement, pour la personne, c'est quelque chose de tout à fait normal d'aller à la banque, de faire un emprunt. Des gens qui prient 5 fois par jour, qui lisent le Coran, qui jeûnent, mais pour eux l'intérêt, il n'y a aucun problème à ça. C'est normal. C'est le système bancaire, c'est dans notre vie, c'est intégré. Donc, pour faire des trucs qui ne sont pas, même nécessité, pas nécessité, n'importe quel truc qu'il a besoin, la personne ne regarde pas ses moyens. La personne se dit que je suis client avec telle banque, je vais chez la banque, il me donne mon crédit, je ne sais pas, 5-6%, et je rembourse, et puis ça y est. Il n'y a pas prise de conscience de la gravité des péchés. Il n'y a pas prise de conscience que j'ai des devoirs envers Allah, qu'il y a des limites qu'Allah a fixées, que l'intérêt, le riba, c'est quelque chose de haram, un des péchés les plus détestés par Allah. Ainsi donc, pour assouvir mes besoins, pour atteindre mes objectifs en termes dunyawi, non seulement je vais consacrer l'essentiel de mon temps, l'essentiel de mon intelligence, l'essentiel de mes forces, de mes préoccupations, mais en plus je vais mettre la main dans le haram, dans le riba, dans l'intérêt, et je laisse passer les hasanats, les possibilités de me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Grave, mes chers frères. Parce qu'on n'a pas compris que wa inna ilayhi raji'un. Et vous croyez que quand on retourne auprès d'Allah, c'est comme dans un grand bus ou dans un grand train, tout le monde va au paradis. Tout le musulman, la ilaha illallah, ils sont dans un seul bateau et hop, de le Jannah. Non, jamais de la vie. Pourquoi dans le Coran on parle de Ashabul Yamin, etc., Muqarrabin, Ashabul Shimal, Ashabul Shimal? Il y a des gens qui seront Muqarrabin, les meilleurs, les plus proches d'Allah, les hommes presque parfaits. Il y en a qui seront les gens de droite, qui ont été dans le droit chemin. Il y en a qui seront les gens de gauche, qui ont fait des erreurs. Et c'est fou. D'ailleurs pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé l'enfer, le paradis. Si l'enfer avait été créé que pour ceux qui ne croient pas en Allah, on serait tous tranquilles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Hadith prouve bien que le prophète sallam, lors de Al-Shafa'a, ça fait partie des aqidas du musulman, lors des intercessions, un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour Ahlul Tawhid, des gens qui avaient la ilaha illallah dans leur cœur, mais qui, à cause de leurs péchés, sont en train de brûler, se désintégrer de le Jahannam et se reformer. Se désintégrer, se reformer. Se désintégrer et se reformer. Souffrance, souffrance, sans arrêt, jusqu'à ce que le prophète sallam aille prendre la personne par la main avec l'ordre d'Allah, avec l'autorisation d'Allah, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni, par l'ordre d'Allah, et le prophète sallam ramène cette personne vers le paradis, et la personne retrouve son corps normal, sa splendeur, et il obtient la grâce d'Allah. Pourquoi est-ce que les gens qui prient, qui jeûnent, qui font le hajj, ils vont dans l'enfer alors? Parce qu'il y avait des péchés. Ça, c'est extrêmement important, mes chers frères, de prendre conscience qu'on retourne auprès d'Allah. Et plus on va connaître Allah, encore une fois, plus on éprouvera du plaisir à faire son ibadah. Et plus on va connaître Allah, plus on aura du mal à le désobéir. Quand je connais Allah, comment est-ce que je peux me permettre de manger une bouchée haram? Comment est-ce que je peux me permettre de voler les biens de mon frère? Comment je peux me permettre d'insulter quelqu'un, de l'humilier en public, de dire ses défauts aux gens, de faire la médisance quand la personne n'est pas là? Comment je peux me permettre de frapper mon épouse, celle qui fait tout, qui élève mes enfants, qui lave mes vêtements, qui nettoie ma maison? Si j'ai la crainte d'Allah, comment est-ce que je peux me permettre de rompre les relations avec mon père? Parce que papa a la cause à tort et à travers tel jour. Parce que papa ne me comprend pas. Parce qu'il vit dans un autre monde. Au nom de quoi? Au nom de quoi? S'il n'y a pas la crainte d'Allah, tout est accessible. Il n'y a plus de différence entre kafir et mu'min. Mais quand un musulman il a la crainte d'Allah, chaque étape de sa vie sera réfléchie. Et il sait que toutes ces actions-là vont lui permettre soit d'arriver auprès d'Allah, soit de s'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Et la solution, mes chers frères, c'est d'apprendre la religion, de faire les actes d'adoration, travailler le iman et connaître ce qui est Allah. Parce que comme on a dit, en connaissant Allah, on saura comment s'éloigner du haram. Plus on connaît Allah, on connaît quelle importance Allah a accordé au silatul rahim, par exemple, les liens de parenté, ben on ne va pas casser avec son frère, sa soeur, son tonton, tati, la nièce, le neveu, pour telle ou telle raison, parce qu'il a regardé mon travers, parce qu'il a fait un remarque sur mon enfant, parce que je ne sais pas, tel, là, wallah. Parce qu'on connaît les qualités d'Allah, on connaît qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Donc connaître Allah, ça nous permet de nous éloigner facilement du haram. Et les savants disent, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les musulmans, ils sont dans les péchés du matin au soir, à pas un mois de l'année, au mois de Ramadan, mais après on retourne malheureusement dans les péchés, c'est que le musulman il ne connaît pas qui est Allah Azza wa Jalla. Donc on a besoin d'approfondir notre aqidah, notre croyance en Allah et mieux connaître Allah. On avait l'intention aujourd'hui de développer wa malaikatihi, de développer la foi sur les anges. Mais on n'a pas le temps, on a atteint 30 minutes, on ne va pas faire trop long. Inch'Allah, lundi prochain, Inch'Allah Azza wa Jalla, on fera un cours sur la deuxième partie, deuxième pilier du iman, croire aux anges. Et on va voir également que croire aux anges, ça nous ramène vers la réalité de la foi. On va dire, mais les anges, c'est une race de créatures, voilà quoi, créées de lumière, ils sont dans les cieux. Basta, ça m'apporte quoi, moi, en tant que musulman? Ben, on va bien voir que croire que iman bil malaïka, vous ne pouvez pas imaginer comment ça renforce iman billah. Ajib, ça, c'est, tout est relié. Quand quelqu'un, il connaît qui est Malik al-Maut, il dort tranquille. Quand quelqu'un connaît qui est Malik al-Maut, il fait des projets sur 10 ans, il va prendre l'intérêt de la banque pour acheter un appartement avec 20 ans d'endettement. Est-ce qu'il va s'endetter du haram avec la banque pour 5 ans pour acheter une voiture? Quand il connaît qui est Malik al-Maut, là, wallah. Quand quelqu'un connaît qui est l'ange du gardien du Jahannam, que les gens disent à Surah Al-Anfiya, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. Quand les gens les gens du Jahannam vont demander, implorer au Malik, l'ange gardien du Jahannam, implore Allah, nous on ne peut pas, mais toi tu es un ange, implore Allah qu'il nous détruise, qu'il enlève notre vie et qu'on meure, que ce soit fini, qu'on arrête de souffrir parce qu'on a fatigué de souffrir. Quelqu'un il connaît Malik, il connaît l'ange gardien de Jahannam, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait encore ses péchés? Il fait encore ses bêtises le samedi soir? La wallah. Quand quelqu'un il connaît l'ange responsable du Jannah, dans certaines choses qu'on appelle le Ridwan, est-ce qu'il va faire passer les plaisirs de ce monde et brader les plaisirs de l'au-delà? Abadan. Quand quelqu'un il connaît quels sont les maladades du paradis, et comment est cet ange qui accueille les gens du paradis, est-ce qu'il va faire, subhanallah, il va prendre du plaisir à jouir des bienfaits qui sont haram et délaisser les ordres d'Allah et franchir le pas vers l'interdit? Je ne sais pas si je me suis trompé en halal et haram, reprenez-moi, c'est un peu la fatigue. Si quelqu'un connaît les plaisirs du paradis, est-ce qu'il va franchir le pas, oui, et accomplir le haram et franchir les limites du licite et de l'illicite? La wallah, abadan. Parce qu'il saura quelles sont ses réalités. Quand une personne prend conscience des anges qui inscrivent les actions, et comment ils sont minutieux, comment ils écrivent l'intégralité des paroles prononcées, est-ce que quelqu'un il parle à tort et à travers et continuera à dire n'importe quoi sans réfléchir, à faire n'importe quoi sans réfléchir? Donc on verra, inch'Allah, que croire aux anges, c'est quelque chose d'extrêmement important également pour construire ma relation avec Allah, pour mieux connaître mon Rabb et augmenter mon iman. Qu'Allah nous accepte de comprendre ces quelques paroles, mettre en pratique, de propager nos meilleurs inshallah. Subhanallah, bihamdihi, Allahumma hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.